Comment allez-vous? Tout le monde se sauve, c'est bien. J'ai cherché comment faire l'entame de cette prédication et je me suis dit, j'ai pensé à quelqu'un qui était dans l'église et qui est parti ailleurs. J'ai pensé à notre frère Daniel. Lui, il avait une façon, il a une façon particulière d'entamer les choses. Ça sert à quoi de prier Dieu? Ça sert à quoi de penser à un homme qui a été crucifié, comme les autres, comme ceux qui étaient coupables? Ça sert à quoi de venir ici? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de penser à la croix? Ça sert à quoi? J'y comprends rien. Alors devant scène, mais quoi? M'aurait-il dit, mais quoi? La question ce matin que j'aimerais vous poser, quelle est la ferveur de ma foi? Quelle est la ferveur de ma foi? Si je prie le Seigneur, si je sais qu'il est capable de me répondre, si je pense à cet homme qui est mort pour la croix pour moi, de quelle façon je le montre? J'aimerais m'appuyer sur trois situations qui vont mettre en œuvre quatre personnes. Je vais commencer par la plus triste. Vous allez voir qu'à chaque fois, il y a des choses qu'on peut vraiment en tirer. La première, donc on va prendre texte par texte. La première se trouve en acte 5, à partir du verset 1. On le connaît très bien, Ananias et Saphira. Acte chapitre 5, verset 1. « Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan t'il remplit ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ ? S'il n'avait pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Ananias et Saphira ont vécu la naissance de l'Église primitive. Et pourtant, dans cette occasion-là, ils ont montré une apparente piété. Quand on lit au verset 36, verset Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fixe d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Ils n'ont fait qu'imiter ce que Barnabas a fait. Le sacrifice qu'ils font actuellement dépasse largement leur état spirituel. Et ils sont carrément entraînés au mensonge. Leur foi était totalement superficielle, il n'y avait rien du tout. Il faut vraiment une foi profonde, vraiment ancrée en Christ, pour faire et accomplir ce geste de vendre un terrain et le donner à la communauté. Eux, ils étaient capables d'une seule chose, mentir. Et c'est ce qu'ils ont fait. L'amour actif est le vrai motif de la charité, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut donner. Le Saint-Esprit seul produit le dévouement et le renoncement. Il n'y a que la présence du Saint-Esprit en nous qui nous fait renoncer à nous-mêmes, à tous ces actes dont on est capable de faire. Et ça donne de la valeur à notre foi. Ça donne de la ferveur à notre foi. On a, à ce moment-là, une foi profonde. On n'est plus dans les « oui, j'y pense, j'ai oublié, j'aurais dû ». Aucune loi n'avait été imposée par les apôtres. Vous imaginez, il n'y avait aucune loi. Les apôtres, à ce moment-là, ils n'ont pas dit à la communauté, voilà, à partir de maintenant, il faudra faire ceci, il faudra faire cela, il faudra respecter ceci. Il n'y avait aucune loi. Les gens le faisaient d'eux-mêmes. Parce qu'ils ont été touchés. Parce que leur foi, à ce moment-là, était grande. Ils croyaient en cet homme dont on leur avait parlé. Il n'y avait aucun artifice. Leur richesse ne leur importait. Ce qui leur importait, c'était d'être ensemble, la communauté, partager l'image de Christ ensemble, vivre l'image de Christ ensemble au quotidien. Ananias et Zaphira, c'était « je garde mon intérêt personnel ». Il n'y avait rien. Et pourtant, ils étaient dans la communauté. Au verset, le premier verset nous dit « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme ». Vous imaginez? Ils faisaient partie de cette communauté-là. Il faut se méfier ce matin. Où en suis-je avec ma foi? Est-ce que je suis obligé d'assister à toutes les réunions? Parce que si je n'assiste pas à toutes les réunions, je perds pied. Ou est-ce que j'ai continuellement les regards fixés sur Christ? Le malin le savait. Il a saisi le cœur d'Ananias et Zaphira. Il savait qu'il n'était pas ancré en Christ. Il a profité. Il a pris leur cœur. Il l'a détourné. Et le mensonge est apparu. Et ils sont allés bien au-delà du petit mensonge. Ils ont bafoué l'esprit qui était dans la communauté. Et c'est grave. Cet amour de l'argent, cet amour de l'intérêt personnel est une puissance d'égarement. C'est un esprit. On est amené ce matin, on vit avec quel esprit ce matin? Je vis ce matin avec quel esprit? Ils n'ont pas été capables de voir la gravité de leurs gestes. Ils n'ont pas été capables. Leur foi n'était qu'une foi d'imitation et c'est triste. Est-ce que ma foi ce matin est une foi d'imitation? Est-ce que je suis ici parce que l'ambiance est bonne? Parce que je me crois sauvé? Est-ce que mon amour et mes regards portés naturellement sur Christ demeurent au quotidien? Ou est-ce que je dois me forcer? Est-ce que la lecture de la parole est contraignante? Si c'est cela, mon frère, ma sœur, il faut se mettre devant le Seigneur tout de suite. Tout de suite. Ils avaient à cœur de faire comme les autres. Ils voulaient faire comme les autres. Mais ça restait humain. Ils n'avaient absolument pas la stature spirituelle. Et pourtant, on reçoit l'Esprit à la faveur de notre foi. En Galates 5,5, pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. La seule chose qui compte à Dieu aujourd'hui, c'est cette foi qui opère par l'amour. Si on a cette foi en nous, cette ferveur, on a un amour naturel, même dans la plus grande des circonstances. Comme on dit souvent avec Paul, on sera capable d'aimer nos ennemis. Et si je vous dis ça ce matin, je me le dis à moi également. Est-ce que je suis capable d'aimer mes ennemis? Le sermon sur la montagne, beaucoup pensent que c'est difficile. Si on est en Christ, pour nous, ça devient une réalité. On est capable de le vivre. Pourquoi? Parce qu'on n'existe plus. Ananias et Zaphira, malgré tout ce qu'ils avaient entendu, ne le vivaient absolument pas. Ils étaient au milieu d'une communauté. Point. Est-ce que ce matin, je suis au milieu de la communauté ? Point. C'est par la foi que nous sommes justifiés en Galates 2,16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. On est justifié en Christ par la foi. Quelle est la ferveur de ma foi ce matin? Quelle est la profondeur de ma foi? On reçoit cette foi. Lorsqu'on a la foi, on reçoit l'Esprit, en Galates 3, 14, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui nous avait été promis. Je ne l'invente pas. Celui qui a la foi a l'Esprit. Celui qui n'a pas la foi n'a pas l'Esprit. Et si on a l'Esprit, on est capable de crier « Abba Père ». Et ça va loin, ça va plus loin que les mots. Ça va plus loin que les mots. Parce que ça devient urgent pour nous de nous tourner vers Christ. Ça devient urgent de garder les yeux sur Christ. Parce qu'on a cet amour naturel pour Christ. On n'est plus obligé de venir à l'église pour faire semblant, pour se rassurer sur son salut. Est-ce que j'ai besoin de ça aujourd'hui? Est-ce que ceux qui m'entourent voient que j'ai la foi? On va le voir plus tard. Que c'est parfaitement possible. Et qu'on peut emmener des gens, des multitudes, au salut par notre comportement, par le fait que notre foi déborde de notre cœur. Ananias et Saphira n'avaient rien. Ils avaient juste cette imitation en eux. La preuve, c'est qu'ils ont fait quelque chose de très grave. Pour procéder de cette façon, ils étaient très loin des choses qu'ils avaient entendues. Et je pense qu'ils ne les avaient pas crues. Parce que pour en arriver à mentir à l'Esprit, mentir à Dieu, c'est grave. Donc ça les a conduits à une double chute. Premièrement, ils mentent à Dieu. Ensuite, ils tentent le Saint-Esprit et pensent qu'ils ne seront jamais découverts. Hébreux 4, 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devrons rendre compte. Qu'est-ce que je fais dans les lieux les plus secrets? Qu'est-ce que je fais le soir? Qu'est-ce que je fais le matin? Qu'est-ce que je fais au quotidien dans ma vie? Est-ce que j'ai besoin de venir à l'église pour penser à Jésus-Christ? Pour penser à l'œuvre de la croix? Ou est-ce que cette foi que j'ai est quotidienne? J'ai cet amour qui brûle en moi au quotidien. Cette lumière qui a chassé le brouillard ce matin, est-ce que je l'ai? Le deuxième texte se trouve en Matthieu chapitre 19. On le connaît très bien, très très bien. Là encore, une triste réalité. À partir du verset 16, on le connaît, on l'a lu. Peut-être qu'on est passé sur beaucoup de choses. Si on le regarde sous le couvert de la foi, Cette situation est aussi grave qu'Ananias et Saphira. Et voici un homme s'approchait et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. » Honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « Mais j'ai déjà observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Et puis, viens et suis-moi. » Verset 22, « Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. » Je m'arrêterai ici. C'est aussi triste qu'Ananias et Saphira. C'est moins grave, mais c'est aussi triste. Cet homme s'approche de Jésus, il est sincère, il est vraiment sincère. Je vous avoue qu'il est sincère. Mais en fin de compte, il ignore qu'une seule chose, c'est sa condition morale. Il croit en Jésus, il croit parfaitement. Mais il ignore tout de ce qui se cache dans les profondeurs de son cœur. On doit peut-être se poser la question ce matin, pourquoi ai-je foi en Jésus-Christ ? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en imitant notre frère Daniel. Pourquoi est-ce que je crois ? En Jésus-Christ. Est-ce que c'est par amour pour Jésus-Christ ou par intérêt, je veux la vie éternelle? Vous imaginez, vous, oh, ah ben je crois en Jésus, comme ça je suis sauvé et j'ai plus rien à craindre, je peux m'asseoir. Hop, je m'assois. Est-ce que c'est ça que je veux dans ma vie? Est-ce que c'est une foi comme ça ou une foi fervente? Une foi qui est accrochée à Christ, une foi qui ne se détourne en aucune façon de Christ. Cet homme était sincère, il voyait le but sans en découvrir le chemin. Le but pour lui, c'était la vie éternelle. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Mais il ne voyait pas, absolument pas, que la personne à qui il parlait, c'est à lui qu'il devait croire en premier. Il l'avait entendu, puisqu'il est venu voir Jésus dans cette intention-là. Il savait qu'il y avait la vie éternelle. En posant cette question, il savait une chose. Je ne sais pas si vous le remarquez quand vous le lisez, il savait qu'il n'avait pas la vie éternelle. Parce qu'il dit, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Mais il prétendait, en posant cette question, qu'il y avait un moyen. Il savait qu'il y avait un moyen pour l'obtenir. Mais il était incapable de réaliser que le moyen était devant lui. Et il pose la question à Jésus, « Que ferais-je de bon ?» Le Seigneur lui pose une seule question. « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ?» Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Je ne comprends pas. Est-ce que je dois faire des œuvres? Est-ce que je dois faire quelque chose pour hériter de la vie éternelle? Rien ne peut se faire de bon qui ne trouve son origine en Dieu. Absolument rien. Et pour faire des choses bonnes, il faut avoir le cœur changé. Parce que sinon, les choses que nous allons faire sans Dieu ne sont que des œuvres. Et nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Voilà ce qu'il est en train d'expliquer à ce jeune homme. La solution, c'est Dieu lui-même. Et il va aller beaucoup plus loin. Il va éprouver la véritable foi de ce jeune homme. Il le place devant la loi. Il lui donne tous les commandements. Mais cet homme, en fin de compte, il pensait pouvoir faire quelque chose parce que la loi promettait la vie ici-bas. D'où en verset 17 qu'on dit, qui est marqué « entrer dans la vie ». L'enseignement des Écritures à cette époque-là s'arrêtait là. C'est-à-dire on restait à la loi. Quand on accomplissait la loi, on était sauvé, point. C'était d'où, tous les ans, on devait faire le même rite. Et le Seigneur lui dit « garde les commandements ». Et ce jeune homme qui observait la loi lui dit « mais lesquels ?» Il n'avait absolument pas compris que s'il transgressait un seul des commandements, il les transgressait tous. Jacques 2 dit « car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Lui, il s'était arrêté « lesquels ?» Lui, il en observait toute une partie, mais dit « lesquels ?» en plus de ceux déjà que je fais. Jésus, il va l'éprouver patiemment. Il commence par énumérer les commandements qu'un homme pouvait accomplir sans esprit, ni vrai renoncement. C'est-à-dire les choses qu'on est capable de faire naturellement. Aimer son père, aimer sa mère. Et ce jeune homme affirme à Jésus, j'ai gardé toutes choses. J'ai fait ces choses-là. Je les ai faites. Jésus le contredit absolument pas. Pourtant, je suis persuadé que Jésus aurait pu lui dire, mais attends, tu te rappelles pas tel moment ? Tu ne l'as pas fait, ça ? Tu te rappelles mardi dernier ? Tu ne l'as pas fait, ça ? Il ne l'a pas contredit, il ne lui a rien dit. Pensant qu'il observait bien la loi, il dit, mais que me manque-t-il encore ? Si on appuie sa foi sur aussi peu de choses, il va toujours manquer quelque chose dans notre vie. Et notre foi va manquer de ferveur. Sur quoi j'appuie ma foi ce matin? C'est la question qu'on doit se poser. Alors là, Jésus, maintenant, il a dit, je pense qu'il a dû se dire, maintenant je vais attaquer directement. Il va mettre le doigt sur le problème de ce jeune homme. Puisque tu aimes ton prochain comme toi-même, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Là, Jésus a mis le point où il fallait. Si on veut être parfait, obtenir un trésor dans le ciel, avoir la vie éternelle, il faut se détourner de tout, les trésors qu'on a sur cette terre. Et je ne suis pas en train de parler des richesses, parce que je vous rappelle que le premier trésor qu'on a, je suis persuadé que vous allez le dire tous ensemble, c'est le moi. C'est le premier des trésors. C'est le premier, et je vous fais le pari que vous êtes tous capables de me le dire, qu'on a du mal, énormément de mal à lâcher. Et on est enchaîné. Et même si c'est par les richesses, c'est pareil. On est enchaîné. Et Jésus ne s'arrête pas là, il va encore plus loin. Il lui dit, viens et suis-moi. Attends, renoncer à mes richesses ? Renoncer à mon moi, entre guillemets, à mes idoles, c'est pas possible. Et pourtant, ce sont ces choses qui nous mènent à la perdition. Jésus lui dit, viens après moi. Moi, j'ai absolument rien à t'offrir sur cette terre. Rien du tout. Car je ne possède rien moi-même. C'est vrai, sur terre, il n'avait même pas une maison, il n'y avait rien du tout. On se demande même comment il avait réussi à avoir des chaussures et un habit. Il n'avait rien du tout. Mais si tu veux avoir cette vie éternelle, renonce à tout et suis-moi. C'est grave si on se pose la question À quoi dois-je renoncer ce matin? Et notre foi, elle dépend de ça. C'est pas grand-chose, mais c'est énorme. Notre foi dépend de ça. Si je suis encore attaché à des choses terrestres, ma foi ne va pas grandir. Elle ne grandira pas. Il n'y aura aucune ferveur. Jésus est la vie éternelle. Et ce jeune homme ne le savait absolument pas. Pour lui, il était à 100 000 lieues. Pour lui, c'était la loi qu'il observait qui faisait que il aurait peut-être pu avoir la vie éternelle. J'observe la loi, mais qu'est-ce que je dois faire de plus? Et renonce à toi-même. Renonce à tout ce que tu as. Oh, c'est pas possible. Jésus est le seul chemin pour avoir la vie. Il faut croire en lui et en sa personne, en son œuvre, et c'est ça la foi. En Jean chapitre 3, verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Ce n'est pas croire « Ah ben oui, je crois en Jésus. » Ça va beaucoup plus loin que ça. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Qu'est-ce qui va arriver? Ben, ce jeune homme, il se retourne, il s'en va, tout triste. Il a reconnu qu'un seul maître dans sa vie, Mammon. C'est triste, hein? Il a reconnu qu'un seul maître. Jésus lui a donné la solution. Nous, on l'a au quotidien, la solution. Il a reconnu qu'un seul maître, Mammon. Sa foi, elle ne consistait qu'à juste observer les commandements. Et il se croyait sauvé. Il ne saisissait absolument pas par la foi la personne de Christ. Il n'avait absolument pas compris que la personne à qui il parlait, c'est lui-même le chemin, la vérité et la vie. Lui, il se croyait sauvé parce qu'il observait tous les commandements. Il était fichu. S'il ne revenait pas sur sa décision, s'il ne faisait pas demi-tour dans sa vie, c'est la repentance. J'ai pas besoin de vous dire la destination de ce jeune homme. C'est la géhenne. C'est la géhenne. La foi dépend de notre repentance. Est-ce que vous le savez? La profondeur de notre foi dépend de la repentance. Est-ce que je me suis repenti? Ce jeune homme, vous imaginez, il ne l'a pas fait. Il ne s'est absolument pas repenti. Il ne s'est pas dit, mais en fin de compte, c'est vrai, je suis aveuglé par mes richesses. Et pourtant, il voulait la vie éternelle. Est-ce que je veux la vie éternelle ce matin? Si je veux la vie éternelle ce matin, je n'ai qu'une chose à faire, me repentir. Me mettre à genoux devant le Seigneur et dire, pardon, je suis sale, je suis impur, je ne mérite même pas de te parler maintenant. Et on en connaît des gens, malheureusement, beaucoup autour de nous, qui mettent leur foi dans leur richesse, dans leur connaissance, parce qu'ils sont bien dans un monde, parce qu'ils veulent être reconnus. On doit être reconnu d'une seule personne, Dieu lui-même. Mais pour ça, il faut passer par Christ. Il faut se dépouiller. La plus grande des richesses qu'on puisse avoir dans le cœur, c'est Christ lui-même. Et c'est lui qui nous donnera cette foi fervente. Le dernier texte, c'est le plus beau. Vous allez voir la différence, vous allez sentir tout de suite la différence. Et je vais vous l'expliquer au départ, la différence. Jean, chapitre 4, verset 46. à 54. Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils, qui était près de mourir. Jésus lui dit : Si vous ne voyez pas des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit : Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dit. Et il s'en alla. Comme il descendait déjà, ses serviteurs, venant à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle. Ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et lui dirent, hier, à la septième heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut lui et toute sa maison. J'aime beaucoup ce texte. La différence entre les autres, c'est que cet homme était fonctionnaire du roi, de la cour du roi d'Hérode. Il avait une fonction très haute. Il ne connaissait absolument rien de la vie d'église, absolument rien de la communauté. Il savait qu'une seule chose, parce qu'il en avait entendu parler. Il ne l'avait même pas vu. Il ne l'avait même pas rencontré comme l'homme riche. Il en avait entendu parler. Ça, c'est la foi. Parce qu'on va voir maintenant ensemble jusqu'où ça va aller. On voit ici que la grâce de Dieu ne regarde pas la race, ne regarde pas les barrières sociales, elle regarde le cœur de l'homme. Ce fonctionnaire ne tient absolument pas compte de son rang, parce que vous imaginez, en ce temps-là, c'était un rang très élevé. Il ne recule pas, il va dans la bourgade de Galilée. Peut-être Jésus était méprisé par ses concitoyens, mais il était vu par ce fonctionnaire comme le seul étant capable de guérir son fils. Vous imaginez cet homme ? En aucun cas n'avait rencontré Jésus. Il avait juste entendu parler de Jésus. Ça nous remet en place de... Est-ce que dans ma vie, les gens qui nous rencontrent entendent juste parler de Jésus. Est-ce que j'ai besoin de faire tout plein de choses? Ou simplement juste parler de Jésus? La foi de cet homme est remarquable. Il est conscient que pour la vie de son fils, il n'y avait qu'un être humain. Parce qu'il ne connaissait absolument pas la divinité de Jésus. Il était conscient qu'il n'y avait que Jésus qui pouvait intervenir. Il a tout lâché. Son rang social, il a lâché son niveau social. Même s'il était ridiculisé après, il s'en fichait. Il est allé voir directement Jésus. Alors Jésus, il n'a pas été... La première chose qu'il fait, c'est qu'il va éprouver la foi du fonctionnaire. Et quand on regarde la première parole de Jésus, ça fait froid dans le dos. Jésus lui dit, après que le fonctionnaire lui ait demandé de l'accompagner pour sauver son fils, Jésus lui dit, si vous ne voyez pas des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Vous imaginez, ce fonctionnaire vient devant Jésus en sachant qu'il n'y avait que Jésus qui pouvait sauver son fils. Jésus lui dit, mais attends, si tu ne vois pas de miracle, de toute façon, tu ne croiras pas en moi. Et il le savait, Jésus. Il savait très bien que si cet homme était devant lui, c'est qu'il avait foi en lui. Mais il lui pose quand même la question. Et cette question va révéler le vrai mobile de ce fonctionnaire. C'est quand un besoin réel est accompagné d'une vraie confiance en celui, avec un grand C, duquel on fait appel, la réponse vient tout de suite. Et la foi est grandie. Si on a foi en Christ, si on sait qu'il est capable de guérir, la prière qu'on fera, Christ répondra. Est-ce qu'on en est conscient? C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Au travers de cette histoire, elle raconte simplement que ce fonctionnaire avait une foi, mais alors incroyable, en Christ. Il savait qu'il était le seul capable de guérir son fils. Qu'est-ce qui est arrivé? Son fils a été guéri. Quelles sont aujourd'hui mes demandes? Comment sont faites mes demandes? Est-ce que je pense à Jésus que lorsque j'en ai besoin? Le but de toute épreuve pour nous, c'est de déterminer notre amour pour Christ, notre confiance envers Jésus. Et c'est de cet amour et de cette confiance que va découler la ferveur de notre foi. Si j'ai qu'une petite confiance en disant, bon, je vais quand même demander à ceux que je connais, puis après je prierai. Qu'est-ce que je suis en train de montrer? Je suis en train de montrer que mes richesses et le monde, c'est absolument pas Christ. Je n'ai pas cette confiance de dire que, comme le fonctionnaire, je vais à Christ, il va sauver mon enfant. Pourtant, il arrive souvent, et c'est vrai, on en a fait tous l'expérience, que les prières, des fois, on prie une fois, deux fois, trois fois, on prie une journée, une semaine, un mois, 15 jours, des mois, des années, puis d'un seul coup, au bout de 10, 15, 20 ans, clac, on reçoit la réponse. Et on se pose la question. Mais mon fils, qu'est-ce que je viens de t'apprendre? Oui, je viens d'apprendre que je suis obligé de prier. Absolument pas. Je viens de t'apprendre la patience. Jacques, chapitre 1, versets 3 et 4, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Tout à l'heure, je suis en train de vous dire, je vous ai dit que Christ est capable d'agir sur le champ, parce que Christ connaît l'urgence de nos demandes. Il voit également comment on prie. Il est capable de nous faire prier pendant des années. On le voit avec notre ami Raymond qui a prié pour Arlette pendant 20 ans. Pendant 20 ans. Si elle avait prié un an, deux ans, puis après, de toute façon, Arlette, elle est perdue, je ne peux rien faire pour elle. Elle a prié pendant 20 ans. Et au bout de 20 ans, le résultat, il est là. Est-ce que nous, dans nos prières, on est pareil? Est-ce qu'on a cette foi de dire, Seigneur, je te donne cette chose, accomplis-la en ton temps? Ça veut dire aussi que, je ne suis pas en train de vous dire que des fois on nous apprend, mais ça veut dire également que peut-être que la prière qu'on fait, et j'en suis convaincu, qu'elle ne fait pas partie des plans de Dieu, que quoi qu'il en soit, le Seigneur fera ce qu'il veut. On peut prier pour des gens, pour la guérison, et c'est absolument pas le désir. Nous, on l'a vu, on l'a expérimenté avec Annick. Au début, on pense que on a la foi, on a prié avec foi, mais on comprend pas. Et après, le Seigneur nous montre que je n'ai pas guéri ta fille, parce que si je l'avais guérie, elle serait retournée de là où elle est venue. Il l'a sauvée au dernier moment. Notre cœur à nous, c'est « Seigneur, sauve-la !» Il l'a sauvée. Mais nous, on parlait de guérison. Mais le Seigneur a sauvé son âme. Vous voyez que même si on met notre foi en œuvre, si ça ne fait pas partie des plans de Dieu, ça ne s'accomplira pas. Ce que nous, on veut. Mais moi, je dis gloire à Dieu aujourd'hui, parce que ce qu'il a fait est bien plus précieux que l'avoir guéri physiquement, parce que je sais qu'elle serait repartie de là où elle venait. Elle a donné son cœur à Christ et elle est morte. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et Arlette, je peux vous dire qu'elle a remercié, elle a glorifié le Seigneur, parce que le Seigneur a posé sur notre cœur cette chose de « Si je l'avais guérie, elle serait repartie de là où elle était venue. » C'est là où il faut avoir une foi fervente. Parce que si vous n'avez pas cette foi, vous partez, vous quittez l'Église. Et vous se posez cette fameuse question, s'il y avait un Dieu. Parce qu'on n'a pas le niveau de Dieu. On n'a pas la vision de Dieu. Et on n'a surtout pas l'amour de Dieu. Ce fonctionnaire, il l'avait dans son cœur. Je suis persuadé. Et il va le montrer qu'il avait cet amour pour Jésus. Jésus va maintenant récompenser la foi du fonctionnaire. Le fonctionnaire royal espérait que Jésus se rentrait avec lui. Jésus lui dit, enfin le fonctionnaire dit, viens avec moi, on va se rendre auprès de mon fils, tu le guériras. En gros, c'est ce qu'il lui a dit. Jésus ne l'a absolument pas écouté. Si, il l'a remis en place, il lui a dit, je vais te montrer comment est ta foi. Parce que ce fonctionnaire pensait que le miracle qui allait être accompli était lié à la présence de Christ sur place. Moi, je vous dis heureusement. Heureusement que ce n'est pas comme ça. Parce que où seraient les miracles aujourd'hui? Les miracles de Christ ne sont absolument pas liés à sa présence physique. Elles sont liées à l'esprit de Christ. C'est pour ça qu'existent les fameux dons de guérison. Je ne suis pas en train de vous dire que parce qu'on n'a pas le don de guérison, on n'a pas l'esprit, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais je vous dis que le Dieu donne ce don à n'importe qui, à une seule condition, c'est qu'on ait l'esprit et la foi pour le faire. Donc Jésus ne voulait pas qu'en fin de compte ce fonctionnaire ait une vision oculaire du miracle. Parce qu'il serait certainement reparti et dit il a fait mon miracle, c'est bien, je continue ma vie. Il voulait lui montrer que ça allait beaucoup plus loin que ce qu'il pensait. Et on a ce verset en Romains 10, verset 17, qui dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Et c'est ce que Jésus va faire. C'est la parole de Jésus qui va guérir le fils de ce fonctionnaire. Ce n'est pas sa présence. Il y a un truc à noter qui est incroyable. Et c'est là où je vais essayer de finir assez vite, c'est que les esclaves ont été touchés, ont cru. Pourquoi ? Parce que dès qu'ils ont vu un changement dans la santé du fils, ils sont tout de suite partis voir le fonctionnaire pour lui dire « ton fils va mieux ». Mais pourquoi ils ont fait ça, à votre avis ? Et c'est là où on voit la ferveur de notre foi. C'est parce que la foi du fonctionnaire a touché les esclaves. Ils ont vu que pour le fonctionnaire, il n'y avait qu'une chose. Ce n'était pas son rang, ce n'était pas ceci. Il aurait pu dire, faites-moi appeler ce Jésus. Non, il est allé directement. Parce que ce fonctionnaire croyait qu'il était le seul à le guérir, qu'il est seul capable à guérir. Et les esclaves ont été touchés par ça. C'est la ferveur de la foi du fonctionnaire qui a touché les esclaves. Je vais passer tout de suite à la conclusion, parce qu'il y en avait encore pas mal à dire. La place merveilleuse que chaque croyant reçu par la foi s'exprime dans « Il est dans le Christ Jésus ». En Galates 3, 26-27, il est dit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Le croyant est uni à Christ et Dieu le voit en Christ. Dans cette position bénie et inaltérable, seule la foi a de la valeur et de la force. Ce n'est pas les richesses qui produisent notre foi. Ce n'est pas la loi qui produit la foi. C'est la façon de recevoir Christ en nous. C'est la façon dont on l'aime. C'est la façon dont on a confiance en lui. C'est la façon de savoir qu'il est le seul à guérir nos âmes. Et quand je dis guérir nos âmes, c'est-à-dire de faire de nous des nouvelles natures, nous changer en nouveauté de vie. Une foi artificielle est un très grand danger, on l'a vu avec Ananias et Saphira. Comment on va réagir au temps de la persécution? Si quelqu'un vient avec une épée et qui nous dit je ne sais quoi, crois en Bouddha, on va faire quoi? Comment réagissent nos frères et sœurs qui ont été décapités, qui ont été éventrés, qui ont été enfermés par 40 degrés dans des containers pendant des jours et des jours et des semaines? Est-ce qu'ils ont lâché leur foi? Non, parce qu'ils avaient une foi fervente. Mais bien aimé, ce matin, je voudrais vous dire que la foi n'est pas une conviction intellectuelle. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un ancien qui vous a retourné. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu dans votre cœur qui a fait connaître le fait qu'il y avait autre chose que ce que je suis dans ce monde, qu'il y avait autre chose que moi, et qu'il faut voir bien plus loin que la vie éternelle. Il faut voir ma vie au quotidien, au milieu des miens. Est-ce que je suis ce fonctionnaire qui, par sa simple présence, est capable de bouleverser les esclaves qui étaient autour de lui? Capable de voir que je suis tout en Christ et je n'existe plus? La foi véritable se fait connaître par ses œuvres. Et là, je parle de vraies œuvres, des œuvres spirituelles. On est capable chacun de donner des paroles d'encouragement, des paroles de discernement. C'est absolument pas parce qu'on est bien, mais c'est parce que c'est l'Esprit qui est en nous qui donne ces paroles. Et quand je parle de l'Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle au travers de nous et qui est capable de donner la paix lorsqu'on parle, qui est capable de donner la joie lorsqu'on parle, qui est capable d'apaiser les cœurs lorsqu'on parle, qui est capable de guérir les cœurs lorsqu'on parle. C'est de cette foi-là que je voulais vous parler ce matin et de rien d'autre. Sinon, comme dit la parole, je serai anathème. Soyez en Christ, parce que Christ veut demeurer en vous ce matin. Amen. Seigneur, nous avons besoin de toi ce matin. Seigneur, que ton esprit bouleverse les cœurs ce matin. Seigneur, que l'on ne puisse pas sortir d'ici en ayant entendu à nouveau ta parole. Mais Seigneur, que l'on puisse se lever et obéir à ta parole. Seigneur, que ton esprit produise la ferveur de la foi, Seigneur. Seigneur, que tu puisses balayer tout ce qui est accessoire dans notre foi. Mais Seigneur, que ce soit un cœur contrit qui soit devant toi, Seigneur. Regarde les cœurs de ton assemblée ce matin, Seigneur, et agis par ton esprit, Seigneur. Seigneur, où irions-nous si tu n'avais pas cette puissance de changer, Seigneur, tout homme? Tu es celui qui donne l'espérance. Tu es celui qui guérit. Tu es celui qui apaise. Tu es celui qui donne la paix. Seigneur, que tu puisses envahir les profondeurs des cœurs et que ta lumière brille dans le cœur de mes frères et sœurs. Amen.